Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard.
Aujourd'hui, les fables de Jean de La Fontaine. C'est en 1668, alors qu'il est gentilhomme servant auprès de la duchesse d'Orléans, que La Fontaine fait paraître le premier recueil des fables, composé de 6 livres. Le second recueil paraît en 2 tomes, les livres 7 et 8 en 1678 et les livres 9 à 11 en 1679. Un troisième recueil, le livre 12, est publié en 1694. Il n'y a pas d'architecture d'ensemble. En revanche, chaque livre suit un itinéraire construit par Jean de La Fontaine. Le premier recueil est précédé d'une dédicace à Monseigneur le Dauphin, le fils du roi Louis XIV, alors âgé de 7 ans. Derrière la flatterie adressée à ce roi, qui lui refuse son appui depuis que le poète a notamment, dans son ode au roi, ouvertement soutenu Fouquet, arrêté et emprisonné en 1661, ce court poème présente les buts de l'œuvre. Derrière le désir de plaire, d'amuser, il y a bien, comme il est de règle dans ce XVIIe siècle, la volonté d'instruire. Jean de La Fontaine disait « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Mais quelle instruction La Fontaine souhaite-t-il donner? S'agit-il seulement, suivant les traces du fabuliste grec Ésope, de transmettre une morale, d'apprendre à de jeunes lecteurs à distinguer le bien du mal? La Fontaine voulait, en peignant de façon détournée le fonctionnement de la société de son temps, démasquer les multiples visages de l'hypocrisie et de l'amour-propre. Jean de La Fontaine est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621. Son père porte le titre de conseiller du roi et maître des eaux et forêts du duché de Chaury, à savoir Château-Thierry. Il est aussi capitaine des chasses. Vers 1630, les études de La Fontaine commencent au collège de Château-Thierry, un établissement réputé, pour les achever vers 1635 dans un collège parisien. La Fontaine entre le 27 avril 1641 à la maison mère de l'Oratoire à Paris, où il est rejoint par son frère Claude. Il poursuit ses études à Paris, à la maison de Sainte-Magloire, pour étudier la théologie jusqu'en 1642. La mort de Richelieu survient en 1642, puis celle de Louis XIII, le 14 mai 1643. La Fontaine vient donc étudier le droit à Paris vers 1646. Il acquiert le titre d'avocat en la cour du Parlement. Avec d'autres jeunes poètes habitués du palais, il fait partie d'une petite académie littéraire et amicale, dite de la Table Ronde. En 1652, La Fontaine achète la charge de maître particulier triennal des eaux et forêts. En août 1954, est publiée sa première œuvre. La Fontaine a fréquenté les cercles mondains de son temps. Entre 1659 et 1661, La Fontaine reçoit de Fouquet une pension en espèces, en échange d'une pension poétique. Il doit ainsi composer un ouvrage en l'honneur de Vaux le Vicomte. En effet, Fouquet fait bâtir entre 1657 et 1661 le château de Vaux le Vicomte, qu'il transforme en un domaine fastueux grâce aux artistes de renom qu'il embauche et qui contribue à alimenter la désaffection du jeune roi Louis XIV. L'influence grandissante de Jean-Baptiste Colbert marque l'arrêt progressif de l'ascension de Fouquet, qui est dénoncé par Colbert pour malversation. Destitué et arrêté sur l'ordre de Louis XIV en 1661, Fouquet est condamné au terme d'un procès fleuve de 3 ans à la confiscation de ses biens et au bannissement hors du royaume. Sa peine est aggravée par le roi en un emprisonnement à vie dans la forteresse de Pignerolles, où il meurt le 23 mars 1680. En 1673, La Fontaine trouve une nouvelle protectrice, Madame de la Sablière, à laquelle il dédie d'ailleurs le long discours qui termine le livre neuf des fables. Il peut ainsi rencontrer les esprits brillants qui fréquentent son salon, d'où le nouvel intérêt dans son second recueil de fables pour les questions scientifiques et philosophiques. Mais outre des difficultés financières, La Fontaine se heurte à la censure. Ses nouveaux contes, publiés sans permission en 1674, sont aussitôt interdits, notamment en raison de leur caractère libertin et des attaques contre la religion. En revanche, ces deux livres de fables nouvelles, parus en 1678 puis en 1679, de trois autres qui forment donc un deuxième recueil, confirment son succès en tant que fabuliste. Sa renommée lui vaut l'élection en 1683 à l'Académie française, que le roi ne valide cependant qu'en 1864, année où paraissent dans la revue Le Mercure Galant plusieurs nouvelles fables, ensuite regroupées et complétées pour former en 1693 un dernier douzième livre dédié au duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV. Après la mort de Madame de la Sablière, les dernières années de La Fontaine se passent chez les Dervars qui l'ont accueilli et, malade, sentant la mort approcher, est-ce pour assurer son salut dans l'au-delà qu'il abjure ses contes libertins, ses écrits contre l'Église, lit les Évangiles et traduit des textes religieux. Jean de La Fontaine meurt le 13 avril chez les Dervars, dans l'hôtel du même nom. En procédant à la toilette mortuaire, on trouve sur lui un cilice. Les commissaires de la Convention exhumeront en 1792 des ossements anonymes pour lui élever un mausolée au cimetière du Père-Lachaise. Son tombeau, ainsi que celui de Molière, inhumés au même endroit, furent transportés au musée des monuments français lors de la démolition du cimetière des Saints-Innocents au commencement de la Révolution française. Le laboureur et ses enfants. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage. Vous le saurez trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on l'aura fait l'hôte. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'avons montré tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant. » Plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par ce camp, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. « Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je ne sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens ? Car vous ne m'aimez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Les obsèques de la lionne. la femme du lion mourut. Aussitôt chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, un tel lieu. Ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince au cri s'abandonna, et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs les courtisans. Je définis la cour un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'ils plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, et surtout celle du roi lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit « Chétif hôte des bois, tu ris. Tu ne puis pas ces gémissements voix. Nous n'appliquons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine. Immolez tous, se traite à ces augustes mânes. » Le cerf reprit alors « Sire, le temps de pleurs est passé, la douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs, tout près d'ici m'est apparue, et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes. Au sens élysien, j'ai goûté mille charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. À peine on eut ouï la chose qu'on se mit à crier miracle apothéose. Le cerf fut un présent, bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, quelque indignation dans leur cœur soit remplie, ils goberont l'appât, vous serez leur ami. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.